qui nous importe, c'est l'histoire. La grande, avec un H majuscule.
La fin des temps chez les catholiques.
Des éclairs zigzags sur un ciel noir, comme mille foudres aveuglantes. En un clin d'œil, tout le monde se rend à la chapelle. On y prie les bras en croix. On récite le rosaire en attendant la mort. Elle est là, nous environnant.
Par quelle crise, quels errements des puissants, quelle catastrophe enfin faudra-t-il passer avant qu'on ne parvienne à l'accomplissement des temps ? C'est une question sans cesse posée dans l'Ancien Testament, par les prophètes. Dans l'islam, des hadiths disent que c'est au pays de Cham, en Syrie, qu'on devra se réfugier, et que c'est en Palestine que se déroulera l'ultime combat avant qu'autour de Jérusalem s'établisse le règne de paix. L'enfant, pendant ce règne, pourra mettre sans danger la main sur le trou de la vipère. Ça, c'est une formule de l'Apocalypse de Jean, car le christianisme entretient lui aussi l'attente qui se réveille régulièrement au long de son histoire. Ainsi, dans la seconde moitié du 19e, on a donné un nom savant à cette attente tirée du grec « eschatos », l'eschatologie, l'étude des fins dernières. À cette époque en France, à la marge d'une église catholique déjà chauffée à blanc par son intransigeance politique, une minorité de convertis se tient en faction, attendant les signes et l'arrêt de Dieu. Ce petit groupe est souvent composé d'écrivains, parmi lesquels Léon Blois et Joris Karl Huysmans, qu'on va retrouver dans le dernier livre de Michel Houellebecq.
La marge de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec François Angelier, qui publie bientôt dans la collection Point Sagesse un livre sur Léon Blois, ce sera le mois prochain, puis qui régulièrement anime une émission sur France Culture consacrée à tous les mauvais genres. Vous connaissez à la perfection François Angelier, les catholiques bonjour. De cette époque, qui signent Furax, est-il encore temps de dire bonjour, qui signe Furax.
Oui, il signe Furax parce que le ciel appartient aux violents et que pour toucher la vérité de la foi et la vérité de Dieu, il faut refuser la tiédeur, la mollesse, le compromis, les paix séparées et faire justement l'assaut et la chasse à la vérité. Donc il faut être un violent.
Une recommandation à nos auditeurs, avant que votre livre ne soit disponible, il y a un salon du livre européen largement consacré à l'Europe des religions, à la Sorbonne, le samedi 23 et le samedi 24. Toute précision sur notre site pour s'y rendre, s'y inscrire. À cause des mesures de précaution, il faut faire attention. Et il y a toute une série de conférences pendant 2 jours sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. La fin des temps, alors, elle se marque par une dégradation des mœurs, de la foi. Et plaçons-nous au milieu du 19e siècle par des signes précis avec les apparitions nommée Vierge, je parle prudemment, François Angelier. Mmh. Alors, on connaît tous Lourdes, mais il en est une autre bien intéressante pour vous.
Effectivement, Lourdes, c'est, je dirais, l'apparition bon genre, l'apparition consensuelle, train plus hôtel, thérapie, une vierge qui est là pour rappeler l'Immaculée Conception promulguée quelques années auparavant par le pape. C'est la vierge qui guérit, la vierge bleu ciel. Mais à côté de ça, en septembre 1846, sur un contrefort des Alpes dauphinoises, est apparue une vierge d'une autre nature.
Elle est apparue comment, physiquement ?
Elle est apparue assise sur une pierre, ce qui est déjà un signe, le visage dans les mains est totalement en larmes.
Et qu'a-t-elle dit ?
La femme était debout. La femme pleurait toujours. Elle pleurait des larmes de lumière. Ce jour-là, qui était le 19 septembre 1846, à cette heure-là, qui était l'heure de l'agonie, et que commençait à Vêpres la fête des douleurs de Marie, c'était l'Église qui faisait retentir ce grand cri de détresse.
Retirez-vous de moi, je veux pleurer amèrement, ne cherchez pas à me consoler.
Et l'Église disait encore, ce jour-là, à cette heure-là,
les fils de ma mère se sont levés contre moi.
Oui, elle pleure, la bienheureuse, et elle annonce dans les larmes ce qu'elle devait proclamer dans la joie. Aujourd'hui que les temps sont accomplis, à présent que l'heure est venue, les hommes repoussent la joie qui leur est offerte.
Jacques Sigan, notre réalisateur, me dit, on faisait de la bonne radio à l'époque, années 60, Raoul Auclair, avec Topard et Bouquet eux-mêmes. Le message de Notre-Dame de la Salette, étrange.
C'est un message qui n'est pas un message de consolation, un message d'apaisement, c'est un message de menace. C'est la Vierge qui rira au dernier jour, comme il est dit dans la Bible. C'est la Vierge qui prévient. Elle prévient les hommes de le fait que l'oubli des devoirs religieux, l'oubli de la foi, l'oubli du respect de la parole du Christ va leur attirer les pires catastrophes. Et sous ce résumé en une seule phrase, si vous continuez à faire ce que vous faites tel quel, eh bien, je ne pourrai pas arrêter le bras de mon fils. Le bras de mon fils est devenu tellement lourd que je ne pourrai plus vous protéger.
Autour des enfants témoins de la Salette, Maximin, Mélanie, dont les carrières vont être passablement heurtées, vont se greffer toutes sortes d'étonnants personnage.
Absolument, puisque depuis la Révolution française, il y a toute une frange de la catholicité qui est en guerre, qui considère que le diable est lâché et qu'il faut se battre contre lui, et à grand renfort, donc, à la fois de dévotion, de toute une spiritualité du sacrifice et des victimes, et surtout une tentative de restaurer la royauté. Donc, il y a des milieux qui sont proches des fameux prétendants au trône, proches de certains Louis XVII, qui tentent de récupérer la Salette à un moment, et puis surtout, ces milieux qui n'ont pas pactisé avec la France d'après la Révolution, qui considèrent que le diable est présent, que la faute est générale et qu'il est nécessaire, au contraire, d'appeler à la punition de manière à appeler après à la rédemption. Et c'est tous ces milieux que l'on appelle les milieux radicaux, les milieux intransigeants, les milieux intégralistes du catholicisme qui vont évidemment faire l'apparition de la Salette.
Faute. Punition, la Salette 46, 70-71, on sait ce qui se produit. Après la Commune, on va organiser des pèlerinages de réparation sur les lieux mêmes de la Salette, dans l'espérance d'une France de la réconciliation. La Commune de Paris, la guerre, ça coïncide à peu près avec une autre apparition de la Vierge, une apparition nommée Vierge, à Pontmain dans la Mayenne.
C'était en l'hiver 70-71, ce grand hiver qui gela les fleuves de France. Dans Paris, il y a la famine. Autour de Paris, il y a les Prussiens.
L'hiver de 70 fut hiver de souffrance, et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les Versailles infâmes approchent de Paris, mais notre cri d'espoir qui va jaillir dans l'ombre, la Commune est en lutte.
Ici, à l'ouest, les Allemands sont aux portes de Laval. Demain, les Uhlans entreront dans la cité. Et ce sera la brèche ouverte sur la Bretagne et la Normandie.
Ce soir-là, à quelques lieues de Laval, un homme, dans une grange, pilait des ajoncs. L'homme est aidé en son travail de deux enfants, ses fils. L'un, Eugène, est âgé de 12 ans, l'autre, Joseph, aura tantôt 10 ans. Il est entre 5 et 6 heures, mais la nuit tombe vite en cette saison. Une chandelle de résine grésille dans un support de fer. La porte s'ouvrit et la flamme vacilla.
Et Eugène sortit pour voir la nuit.
Et Eugène vit que la nuit était belle, et l'air profondément calme. Et voici, soudain, qu'une femme se dressa. La femme regardait l'enfant et lui souriait.
C'est la dame de Pontmain, avec une robe parsemée d'étoiles, encadrée par un ovale, une petite croix rouge sur le cœur. Et le culte commence en 1871. Depuis 1871, notait un individu singulier, un entrepreneur de démolition dont vous allez nous parler, Léon Blois. Nous jouissons comme des vaincus, des archi-vaincus de cœur et d'esprit, Léon Blois.
Alors Léon Blois, c'est au sein de cette constellation de catholiques et d'intellectuels qui se sont déclarés en lutte avec la France héritière de la Révolution française, avec ce qu'a été la République bourgeoise, laïque et démocratique. Ça a été le plus violent, le plus résolu et le plus intransigeant, si je dirais. Et Léon Blois, effectivement, a été... Bon, il est né en 1846, l'année même, quelques mois, quelques jours presque de l'apparition de la Salette. Il verra d'ailleurs là un signe d'élection le concernant. Il a été totalement retourné, mais au sens de Saint-Paul, métanoïa, il a été retourné entièrement par sa rencontre avec Barbey d'Aurevilly en 1867, qui a fait de ce personnage très doué, visiblement génial sur le plan littéraire, artistique, non pas un socialiste anarchisant, ce qu'était Blois avant de rencontrer Barbey d'Aurevilly, mais un catholique intransigeant. Et depuis 1967, eh bien, Blois est un personnage qui tente de militer au sein du parti catholique et au sein, je dirais, des phalanges chrétiennes les plus résolues. Mais comme le personnage est un anard fondamental, que c'est un personnage bohème, totalement intempérant et qui est rétif à la discipline de parti et à une certaine enrégimentement, eh bien, il se retrouve seul. Et c'est cette solitude extraordinaire qui va être celle de Blois toute sa vie. Donc, découvert de Barbey, catholique qui ne s'accorde qu'à la vérité de l'absolu et surtout disciple de la Salette. C'est-à-dire que Blois considère la Salette comme la vérité de l'histoire.
Alors, l'histoire présente, c'est Sodome, Gomorre, le Vaudor, entouré de croupissants glorieux. La République, c'est Jézabel de Lupanar, bâtarde de tous les lâches. On y patauge dans la boue des cœurs.
Absolument, puisqu'il ne peut y avoir de vérité que catholique, il ne peut y avoir de boussole que vis-à-vis du calvaire, et il ne peut y avoir de rapport qu'avec l'absolu. Donc toute cette république qui tente de penser l'homme uniquement selon l'homme est totalement va évidemment au désastre, à la défaite, et elle est satanique de par la même. Mais ce qui ne fait pas de Blois je dirais un militant de base du catholicisme intransigeant. Blois est un solitaire. C'est un prophète, c'est une voix qui crie dans le désert et on se rendra compte et on se rend compte en lisant ces textes qu'il n'est, je dirais, soumis à aucune doctrine et enrégimenté sous aucune bannière.
Mais nos auditeurs feront peut-être le rapprochement entre son langage et un certain nombre de formules fondamentalistes qui ont cours de nos jours. Lui, il ne veut pas fusiller ses adversaires, il veut les soumettre au pal.
Absolument,
parce
que Blois est un homme qui fonctionne avec ce qu'il appelle l'hyperbole. C'est-à-dire, il a écrit que l'hyperbole permet de contempler les astres en les agrandissant et de scruter les insectes également en les agrandissant. Donc de toute façon, la vision bloyenne de l'histoire et des individus est une vision hyperbolique. Et donc au lieu d'aller très, très bêtement vers la guillotine révolutionnaire ou vers le fusil communard, eh bien lui va vers le pal qui est à la fois totalement pour lui atroce et hilarant.
Houellebecq fait apparaître dans Soumission, son dernier livre, fugitivement le personnage de Léon Blois, en soulignant, il faut mettre ça à son crédit, mais enfin vous avez une dette extraordinaire de toute façon à l'égard de Blois, qu'il n'était pas antisémite.
Non, Blois n'est absolument pas antisémite et c'est sûrement le seul écrivain philosémite affirmé du 19e siècle. Son livre « Le salut par les Juifs » plus toute une série d'extraits de son journal montre bien qu'il considérait le judaïsme et le peuple juif comme un élément essentiel de l'histoire de l'humanité et doté d'une mission sacrée qui fait qu'il échappe complètement à toutes les polémiques catholiques de l'époque, c'est-à-dire à l'antisémitisme de base de la Croix ou au lecteur de Drummond.
Mais avec les Juifs, il partage le goût du prophétisme, ça doit être un lecteur du livre de Daniel. Il attend d'ailleurs les signes. Alors, les catastrophes, il attend le facteur pour le mandat, parce qu'il n'a jamais d'argent, et il attend les signes. Les catastrophes, dans son journal, il y en a 5, 10, 15.
Il faut bien se dire une chose, c'est que Blois a passé sa vie à attendre. Il a attendu tout ce qui peut s'attendre, ce soit un petit mandat envoyé par un ami de province, parce que Blois a vécu dans la gêne et la pauvreté absolue. Il attend aussi bien la visite d'un inconnu qui pourra lui apporter une révélation, et il attend l'arrivée du Saint-Esprit. Donc c'est l'homme de l'attente, c'est l'homme de l'Apocalypse, justement. Il a les yeux rivés vers le présent, et dans un présent prophétique, vers l'attente du grand avènement.
Alors, exemple parmi 15... Mai 1897, rue Jean Goujon, une grande réunion mondaine de charité. Ça s'appelle le bazar de la charité. Blois va commenter dans son journal.
Hé petit, éclaire-moi. Je vais déboucher cette bonbonne d'éther pour remplir le réservoir de la lampe. C'est ça. Approche l'allumette. Oh, hop, hop, oh, 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 oh.
5 mai 1897, incendie du bazar de la Charité. Un grand nombre de belles dames ont été carbonisées hier soir en moins d'une demi-heure. Tout le monde, bien entendu, accuse Dieu. Songez donc, des personnes si riches, en toilettes de gala, et tout ça pour l'amour des pauvres. Voilà donc un commencement de justice. Ce mot de bazar, accolé à celui de charité, le nom terrible et brûlant de Dieu, réduit à la condition de génitif de cet immonde vocable. Dans ce bazar donc, des enseignes empruntées à des caboulots, à des bordels, à la truie qui file par exemple, des prêtres, des religieuses, circulant dans ce pince-cul aristocratique et y traînant de pauvres êtres innocents, et le nonce du pape venant bénir tout ça. Cette pensée si naturelle, Dieu frappe, donc il frappe avec justice, ne s'est présentée à l'esprit de personne, ou si elle s'est présentée, elle a été écartée immédiatement avec horreur. Attendez-vous, préparez-vous à de bien d'autres catastrophes auprès desquelles celle du bazar infâme semblera bénigne. La fin du siècle est proche, et je sais que le monde est menacé comme jamais il ne le fut.
Et pendant ce temps, les sorcières adorent la divinité des ténèbres et dansent sur le mont Chauve.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
La fin des temps avec François Angelier, annoncé par l'adoration de la divinité des ténèbres, Chernobog, Moussorski.
Ça, c'est le folklore russe.
C'était une interprétation du Philharmonique de Philadelphie, dirigée par Léopold Stokowski. Ah oui, le folklore russe, dans l'islam, il y a Dajjal, le menteur, c'est pas du folklore. Et il y a, chez les chrétiens, Satan. Alors ça, c'est la grande affaire d'un autre grand personnage de la fin du XIXe siècle, François Angelier, qui est aussi le grand personnage du livre de Michel Houellebecq, Soumission, Houellebecq, H-O-U, Huysmans, H-U-Y-S-M-A-N-S.
Oui, c'est le roman de Michel Houellebecq qui pratique une sorte de, pas de réhabilitation, mais de remise en selle du célibataire huysmansien, cet homme solitaire, esthète, qui est à la fois au cœur du monde, mais qui le regarde avec une certaine distance critique, voire amusée. Et c'est à ce titre, le roman est extrêmement singulier. Alors lui, Huysmans, effectivement, autant le diable est présent, bien évidemment, chez Blois, et même assez tôt, autant il est central chez Huysmans, puisqu'il est au cœur de son roman pivotal, qui est Là-bas, qui est l'histoire de Gilles de Rais, en même temps qu'un peinture du Paris, de l'occultisme et de l'ésotérisme. Et au cœur du 11e chapitre central de Là-bas, il y a une phrase qui est « L'au-delà du mal ne s'atteint pas ». C'est-à-dire qu'il y a, dans l'adoration du mal et la dévotion à Lucifer, un désespoir fondamental, puisqu'on ne débouchera sur rien. Ce qui amène sûrement Huysmans à sa conversion.
Un lieu central dans Là-bas, c'est Saint-Sulpice avec ses deux tours. Et dans l'une des tours, un nommé Carré. Carré est le sonneur de cloches de Saint-Sulpice. Il habite un appartement qui est suspendu entre les abîmes de la ville et le ciel. Et s'y tiennent d'étranges conversations pendant les repas sur les sectateurs de Satan.
À quel monde appartiennent les gens qui sont maintenant affiliés au diable ?
Aux supérieurs de missionnaires ? Aux confesseurs de communauté ? Aux prélats et aux abbesses ? À Rome ? Où est le centre de la magie actuelle ? Quant aux laïcs, ils se recrutent dans les classes riches. Cela t'explique comment ces scandales sont étouffés.
Ah oui, nous pouvons le dire entre nous. Le 19e siècle regorge d'abbés immondes. Malheureusement, si les documents sont certains, ils sont de preuves difficiles à faire, car aucun ecclésiastique ne se vante de méfaits pareils. Je n'ai parlé jusqu'ici que des associations sataniques locales, mais il en est d'autres plus étendues, qui ravagent les deux mondes. Car, et cela est bien moderne, hein, le diabolisme est devenu administratif, centralisateur, si l'on peut dire. Il a maintenant des comités, des sous-comités, une sorte de curie qui réglemente l'Amérique et l'Europe, comme la curie d'un pape.
Adaptation de Huysmans par France Culture. Les plus puissants sont sans doute les plus menteurs.
Ben oui, ça c'est inévitable, puisque depuis la Révolution française, le diable est lâché sur le monde, il est présent partout, donc évidemment, il est au cœur du pouvoir laïque et républicain, bien évidemment, puisque cette révolution est satanique, comme le disait Joseph de Maistre, donc bien sûr la République est satanique, mais il a également contaminé la puissance religieuse, et on soupçonnerait, alors là c'est toute la fameuse affaire Léo Taxil, cet écrivain journaliste qui avait bâti toute une mythologie luciférienne, l'idée d'un complot luciférien mondial, qui serait présent partout, même au cœur de l'Église, même au cœur du Vatican. Donc là, c'est une véritable vision, je dirais, pan-diabolique, qui fait que le diable domine le monde. Et alors, cette dévalorisation des élites va de pair, évidemment, avec une valorisation de la piété populaire. Et chez Huysmans, ce qui sera la grande émotion, c'est les paysannes dauphinoises, donc salétines, qui montent en procession, chantées tout en haut de la Sainte Montagne. Donc il y a une dévalorisation des puissants au privilège de la foi des simples.
On parlait de Houellebecq, le personnage principal, c'est un spécialiste de Huysmans, professeur à la Sorbonne. Il y a un personnage constant de narrateur dans les livres successifs de Huysmans qui s'appelle Durtal. Et Durtal va se convertir. C'est par la vision du surnaturel du mal que j'ai eu d'abord la perception du surnaturel du bien. Ceci dérivait de cela.
Tout à fait, c'est ce que les deux abîmes consonnent et résonnent l'un avec l'autre, l'abîme d'en bas et l'abîme d'en haut. Et à partir du moment où on a une conscience suffisamment forte de ce qui est, c'est comme le plongeur, le pêcheur d'éponge, on touche le fond du mal et on prend appui, on remonte vers le bien. Donc c'est ce qui est arrivé à Huysmans, qui donc a fréquenté de très près les milieux ésotériques, les milieux lucifériens, et puis a fini par se convertir d'abord à la salette, puis après à la Trabdini, et au catholicisme.
Mais ce qu'il faut bien... par le parvis de la cathédrale de Chartres.
Et bien sûr,
ça donne un livre qui s'appelle la cathédrale.
La beauté gothique, mais s'il faut bien voir, c'est que pour eux, il y a une sorte de pensée conjointe des abîmes du bien et des abîmes du mal, et qu'il n'y a pas de manichéisme, l'affrontement de l'un contre l'autre. Enfin, c'est véritablement une pensée comme ça, soudée.
Dans le livre de Houellebecq, il y a une scène au monastère de Ligugé, après avoir tâté de la trappe. Huysmans, Durtal, est allé chez les bénédictins de Ligugé, où il y a une belle bibliothèque. Alors aujourd'hui, dit Houellebecq, il y a des marqueurs d'incendie, des capteurs d'incendie au plafond des cellules. On ne peut même plus fumer, il y a le TGV.
Vous savez la phrase de Léon Blois. Léon Blois disait « tout le monde tremble quand on dit au feu, qu'est-ce que ce sera le jour où on dira au Saint-Esprit ?»
Il y a le TGV qui traverse le parc du monastère. Mais quand Durtal y est, dans la pénombre de l'office de nuit.
Il fit un pas, se signa. Et recula, car il venait de heurter un corps. Il regarda à ses pieds. Il entrait sur un champ de bataille. Par terre, des formes humaines étaient couchées dans des attitudes de combattants fauchés par la mitraille. Les unes à plat ventre, les autres à genoux. Celle-ci affaissée, les mains par terre comme frappées dans le dos. Celle-là étendue, les doigts crispés sur la poitrine. Celle-là encore se tenant la tête ou tendant les bras. Et de ce groupe d'agonisants ne s'élevait aucune plainte. Durtal contemplait, stupéfié, ce massacre de moines.
Ils ne sont pas morts, non. Ces moines massacrés.
Non, ils ne sont pas morts, mais ils sont morts au monde d'abord, donc c'est une certaine forme de monde, et ils ont cette position du corps qui est une position de la, du crucifié, c'est-à-dire qu'ils retrouvent la figure du crucifié de Grunewald, le tableau qui faisait délirer Huysmans dans l'acte de la prière. Ce qui est important de voir, c'est la différence justement sur ce plan entre Blois et Huysmans. Pour Blois, nous sommes, on touche le fond et on attend. On attend, c'est-à-dire que le paraclet, le Saint-Esprit va arriver pour juger le monde. Bon, pour Huysmans, c'est tout à fait différent. La chute a eu lieu et le monde ne survit, le monde ne se maintient que grâce à la prière et au sacrifice volontaire de certaines victimes spéciales qui sont les saints et qui sont les moines. C'est-à-dire que c'est la prière qui assure la survie du monde. S'il n'y avait pas dans les cloîtres du monde entier, répartis selon les ordres les plus variés, des hommes et des femmes qui se sacrifient, qui sont morts au monde et qui sacrifient leur âme et qui implorent, eh bien le monde s'effondrerait. Donc c'est ça qui est important, et ce massacre de moines, pour le Durtal, donc pour Huysmans, c'est ce qui assure, je dirais, véritablement la survie de la société et la survie de l'histoire.
Ce sont si les cette éponges prière s'arrête, qui, tout s'effondre. Ce sont les éponges qui résorbent les scandales, les dérèglements, les crimes. La différence de cette eschatologie, l'étude des fins dernières, de ces catholiques très minoritaires de la fin du XIXe siècle, et la différence avec ce qu'on voit aujourd'hui chez certains. Léon Blois, il se surnomme le vieux de la montagne. C'est-à-dire le chef de la secte secrète ismaélienne du XIIe siècle qui semait la terreur. Et pourtant, il y a une grande différence. Il ne recommande pas le martyr.
Non, Léon Blois ne recommande pas le martyr, il recommande le combat. C'est un pugnace, c'est un violent, c'est un personnage qui était en lutte permanente. Il a fait la guerre de 70 dans les corps francs. Il n'a pas fait la Première Guerre mondiale parce qu'il était très vieux. Il est mort en novembre 1917, donc il l'a vu de loin. Mais ça a été perpétuellement un combattant, quelqu'un qui était posté, qui était vraiment d'une sorte à la poupe comme ça pour affronter frontalement les périls. Et donc, il n'y a pas chez lui d'acceptation, il n'y a pas chez lui d'une certaine forme de renoncement sacrificiel. C'est plutôt une figure de combattant et une figure de, je dirais, de zélote. C'est un gladiateur.
Mais il n'y a pas de martyr dans cette tradition, je le répète, minoritaire de ces écrivains fin de siècle du monde catholique, à la marge du monde catholique.
Il n'y a pas de martyr au sens traditionnel, c'est-à-dire un croyant qui est saisi et qui subit la mort au nom de la vérité de sa foi. Il y a ce qu'ils appelaient à l'époque les victimes spéciales, c'est-à-dire les martyrs volontaires, c'est-à-dire des spirituels. Il y a ça dans les romans de Léon Blois, que ce soit Véronique Cheminot qui offre son corps, la beauté de son corps pour justement pour la foi de Cain Marchenoir, qui est Blois, qui est son amant. Il y a Clotilde Maréchal dans La femme pauvre, qui finit comme une sorte de pèlerine perpétuelle, une sorte de clocharde céleste. Là aussi, ce sont des gens qui volontairement font le sacrifice de leur personne, de leur corps et de leur âme pour le salut de la communauté. Mais ce ne sont pas des martyrs au sens traditionnel.
Merci à vous, François Angelier. Je note que vous êtes habillé comme Léon Blois, avec le velours du charpentier.
Absolument. Vous me reconnaîtrez à ceci que j'ai l'air d'une brute, disait-il.
Un livre dans la collection Point Sagesse bientôt. Puis je rappelle les journées de l'histoire de l'Europe à la Sorbonne, vendredi et samedi 23 et 24 janvier de 10 à 20 heures. Un salon du livre gratuit consacré à l'histoire religieuse de l'Europe et une série de conférences pendant 2 jours. Tout détail sur notre site. Jacques Sigal a réalisé cette émission préparée par Franck Olivard avec Julien Dumont. On aurait pu vous parler, si on avait utilisé des mots savants, de la théodicée de la souffrance, mais vous, Mathieu Vidard, c'est de la douleur chez les sportifs que vous allez nous entretenir.
Et oui, c'est un compagnon de route pour les sportifs. C'est le dossier de la tête au carré, Jean, dans un instant.
Merci à vous.